Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Ta parole dit que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit.
Différencier le religieux du spirituel. Le Dieu créateur a fait notre planète pour que son ami, l'être humain, puisse s'y épanouir, s'y multiplier et être un jour citoyen de son royaume. L'épouse éternelle de Jésus-Christ se prépare sur la planète Terre. Le royaume de Dieu, selon Jésus, ce n'est pas un rite ou une cérémonie. Il n'a pas dit « le royaume de Dieu ressemble à une cérémonie ». Il a dit « ça ressemble à une bonne semence. » Il y a beaucoup de paysans ici. À un trésor caché, à un marchand de perles, à un vigneron qui embauche des ouvriers, à un roi qui prépare des noces pour son fils. Jésus est venu dépeindre le royaume de son Père où chacun est invité. Jésus a parlé dans les paraboles de perles, de farine, d'huile, de vin. Il nous a donné des exhortations avec des mots comme étoffe, des illustrations comme des voyages. Il a illustré la volonté de Dieu, merci beaucoup, en parlant de chameaux, de colombes, de poussins. Par Jésus, Dieu a pris notre mesure pour nous permettre de retrouver la sienne. Jésus était simple. Jésus utilisait toutes sortes de situations concrètes pour nous parler de l'invisible, pour nous faire saisir ce royaume dans lequel nous sommes appelés à devenir citoyens. La louange, eh bien, ça va découler de l'émerveillement devant ses œuvres. Les gens ne pouvaient plus se contenir. À un moment donné, ils ont dit « béni, soit celui qui vient au nom du Seigneur ». L'adoration, eh bien, elle jaillit devant la personnalité de Dieu. La prière, ça devient une collaboration intime au plan de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les enseignements de Jésus nous plongent dans des délices. Il nous apprend des principes qui régissent le monde. Il nous dit qu'on peut travailler en son nom, servir Dieu. Jésus dit que ça peut être avec joie. Si on fait un sondage à la population, d'après vous, quelle est la caractéristique de ceux qui servent Dieu? Est-ce qu'on aurait des mots comme joie, privilège? Ces commandements ne sont pas pénibles. Prenez mon joug sur vous, car il est doux. Et on peut se poser la question, si notre vie est pénible, harassante, stressée, est-ce qu'il n'y aurait pas une part de religieux qui aurait pénétré? Une part de crainte de l'homme? Une part de commandements ajoutés qui ne sont pas bibliques? Je ne dis pas que le stress vient que de ça, vous me comprenez bien. Mais Jésus dit, les serviteurs du royaume, ils portent un joug qui est doux. Ça m'interpelle aussi moi. Alors je vais vous faire cette lecture dans Matthieu 23, 1 à 7, puis le verset 13. Vous pouvez écouter. Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit, les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leurs enseignements. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils lient de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets à versets qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres, et les franges de leurs manteaux plus longues. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle « maître ». Verset 13, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Non seulement vous n'y entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. » Les pharisiens étaient un mouvement spirituel qui avait commencé environ un siècle avant la venue de Jésus, Ils avaient des doctrines qui étaient souvent profondes et exactes, mais peu à peu, ils ont apporté leur tradition, leur culpabilité, leur religiosité. Si bien qu'à l'époque de Jésus, au lieu de représenter le royaume de Dieu, au lieu de préparer le chemin au Seigneur, comme Jean-Baptiste l'a fait, ils se sont dressés contre le Seigneur, au point que Jésus va les appeler serpents, c'est-à-dire animés d'un esprit démoniaque, race de vipères. Jésus est bouleversé parce que Jésus connaît le royaume de son Père. Il connaît ses valeurs. Et il voit ce que les pharisiens ont donné comme vision au peuple d'Israël. La vie, leur vie, est devenue un paravent au royaume de Dieu, un vaccin anti-Dieu. Et au cours des siècles, des millions ont quitté l'Église et d'autres ont refusé de confier leur vie à Dieu, pas à cause du royaume, à cause de la religiosité. Le vaccin anti-Dieu, l'esprit religieux imite l'Esprit Saint, voile son action et tient la vérité captive. La religiosité, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas un personnage. La religiosité, c'est une attitude, une maladie qui, sans vigilance, se développe aussi lentement que sûrement. L'homme naturel est religieux. Un pharisien sommeille en chacun de nous. Et selon Galates 3, verset 3, nous pouvons commencer dans une heureuse spiritualité et finir dans une religiosité nauséabonde. Mais la Bible est là. L'Esprit de Dieu est là. Alors j'aimerais vous donner 3 ou 4 points ce matin que Jésus dénonce dans cet esprit religieux. Parce que si le Seigneur nous amende, c'est pour que sa vigne soit magnifique. C'est pour qu'on soit heureux, qu'on porte des beaux raisins pour notre Père céleste. La première chose que Jésus dit, c'est qu'ils disent, mais ne font pas. Les maîtres de la loi et les pharisiens, dit-il, sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Vous devez donc leur obéir, accomplir tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Alors, qu'en est-il des disciples de Christ? Eh bien, Jésus les façonne patiemment pour harmoniser ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et je vous cite 2 versets étonnants. Jésus leur dit alors, clairement, aux 12, « Lazare est mort, je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, parce qu'ainsi vous croirez en moi. Mais allons auprès de lui. » Alors Thomas dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec notre maître. » Ça semblait tellement passionnant, tellement virtuel, tellement extraordinaire, une petite visite dans l'au-delà avec Lazare et Jésus. Ils sont mystiques, ça ressemble à un jeu. Mais voilà, quelque temps plus tard, Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémané. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. C'est quoi la différence entre « allons mourir avec lui » et tout ce qui fuit? Eh bien, c'est la réalité. C'est la réalité, une nuit froide, la peur au ventre. Il n'est plus question de mourir, il est question d'arrestation. Alors, quand leur foi est testée, ils fuient. Et l'apôtre Paul, qui a frôlé la mort à maintes reprises dans ses voyages, écrit « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable, en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. » Jésus dit « Ne vous faites pas des illusions sur vous-même. En vous contentant d'écouter la parole de Dieu, mettez-la réellement en pratique. » Jésus dit « Il est possible de s'illusionner soi-même. » Mais Jésus dit « Ne faites pas. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. » Notre capacité de comprendre le plan de Dieu pour nos vies est proportionnelle à notre volonté d'obéir. Beaucoup de chrétiens, au cours des siècles et aujourd'hui, ont perçu les rencontres chrétiennes comme une pratique. À part cela, ils pouvaient nourrir des mauvaises pensées, critiquer, se disputer, mentir, laisser leurs factures impayées et trahir leurs engagements. Mais ils étaient pratiquants. Et c'est tellement enraciné dans notre culture qu'un chrétien pratiquant n'est absolument pas du tout celui qui pratique la parole de Dieu, mais c'est celui qui fréquente une église. Et si c'est une fois par mois, vous êtes compté dans les statistiques des pratiquants. Une vaste partie de l'église a dit « Il n'est pas nécessaire de naître de nouveau, il suffit d'obéir. » Et une immense partie de l'église a prêché « Il n'est pas nécessaire d'obéir, il suffit de naître de nouveau. » Mais Jésus dit, ceux qui entrent dans le royaume, ceux qui vivent le royaume, c'est ceux qui mettent en pratique. Quand je suis en communauté, je me nourris de Dieu. Lorsque je me lève et sors, je nourris la société de sa part. Je ne suis pas un pratiquant parce que je vais à l'église, mais parce que je pratique ce que j'y apprends. Amen. Je ne suis pas un pratiquant parce que je fréquente une église, mais parce que je pratique ce que j'y apprends. Et ceux qui n'ont pas besoin d'apprendre et qui pensent qu'ils mettent en pratique, souvent ils se trompent, ils s'illusionnent sur eux-mêmes, parce qu'on a besoin de la communauté. L'oreille ne peut pas dire, moi je suis une oreille qui me promène toute seule dans la nature. Alors l'homme spirituel, Jésus, j'aimerais vous donner une liste et qu'on puisse bien la recevoir. Jésus aime les malades et il les guérit. Il croit à la valeur des enfants et il leur accorde du temps. Il a pitié de la foule affamée et il la nourrit. Il enseigne la confiance, mais il la démontre sur le bateau en train de couler. Il enseigne la bonté, mais il multiplie les actes de bienveillance. Il prêche la fidélité, mais il demeure fidèle dans l'opposition et la souffrance. On l'appelle l'ami des pécheurs, parce qu'il les visite, il les écoute, il les conseille, il les instruit, il les reprend, il les délivre selon leurs besoins. Il se dit serviteur, et il marche à côté de ses disciples d'une ville à l'autre. Il traverse les lacs, gravit les montagnes, mange chez l'habitant. Il prêche l'amour et donne sa vie pour l'humanité. Il annonce sa mort et sa résurrection. Il meurt et il ressuscite. Il promet le Saint-Esprit et il l'envoie. Amen. Comment s'éloigner de cette maladie de la religion pour entrer dans un monde spirituel? Restez proche de l'homme spirituel. Restez proche de Jésus chaque jour. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. C'est ça la vraie famille de Jésus. Dieu est ainsi venu vivre devant nos yeux. Il nous apprend que l'homme spirituel vit ce qu'il dit. L'inspiration accompagne ses paroles et l'onction repose sur ses actes. Le deuxième aspect, c'est oppresseur ou serviteur. Jésus dit, ils attachent de lourds fardeaux, difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à remuer ces fardeaux. Quand l'enseignant ne pratique pas ce qu'il enseigne, son enseignement devient rapidement trop exigeant, aveugle aux vrais défis, sourd aux cris du peuple. Ainsi était le message des pharisiens. On voit parfois à la télévision un prince régnant aller dans une léproserie. Alors, il est arrivé en avion première classe. Un hélicoptère l'a porté de l'aéroport jusque dans un village reculé, puis on l'a mis dans une Mercedes climatisée et il est allé jusqu'à la léproserie. Et puis il a quelques cadeaux et quelques gestes pleins d'amour nécessaires. Béni Seigneur ces princes régnants qui font ainsi. Les flashs crépitent. Les micros sont ouverts, la presse internationale est là. Et puis il remonte dans la Mercedes, il reprend l'hélicoptère, il revient en première classe dans son château. Est-ce que Jésus a fait comme ça? Non, il est venu dans le ventre de Marie pendant 9 mois. Il est né comme un petit bébé. Il a connu la pauvreté. Il a dû fuir en Égypte avec ses parents. Il s'est soumis à des parents imparfaits. Il a été charpentier. Il a supporté la faiblesse des disciples, la mauvaise foi de ses adversaires. Il était propriétaire de tout, mais il n'avait pas un endroit où reposer sa tête. Il était saint, mais il a accueilli les prostituées, il a touché le lépreux. Il a affronté la tentation, l'opposition, la déception, la trahison, la tristesse, l'angoisse. Moi, j'ai pas beaucoup connu l'angoisse. Mais je me souviens de 1 ou 2 minutes où j'ai vécu l'angoisse. Et on a vraiment l'impression que le monde s'écroule. Jésus a été angoissé. Adoré des anges, il a été crucifié par l'humanité. Il n'a pas pris une position de facilité comme un prince régnant. Il a allégé les fardeaux au cœur de la mêlée. Sa compassion, c'est celle d'un compagnon d'armes. Il prend nos soucis, il porte nos péchés, il subit notre jugement. Il devient ainsi notre frère, notre avocat, notre sauveur. Dieu a un caractère de serviteur, le diable a un caractère d'oppresseur. Jésus se leva de table, ôta son vêtement de dessus et prit un linge dont il s'entoura la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples. Jésus appela tous ses disciples et dit, « Vous savez que les chefs des peuples les commandent en maîtres et que les grands personnages font sentir à leur peuple leur pouvoir. » Kadhafi, la Syrie maintenant. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. Ça, c'est les lois du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Servez votre village. Priez pour lui. Cherchez à soulager ses souffrances. Troisième et dernier point, star ou adorateur. Ils accomplissent toutes leurs œuvres, nous dit Jésus, de façon que les hommes les remarquent. Ainsi, pour les paroles sacrées qu'ils portent au front ou au bras, ils ont des étuis particulièrement grands. Les franges de leurs manteaux sont exceptionnellement larges. Ils aiment les places d'honneur dans les grands repas et les sièges les plus en vue dans les synagogues. Ils aiment à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques et être appelés maîtres par les gens. Voyez-vous, les pharisiens se comportent en stars. Ils cultivent le culte de la personnalité, les apparences. Ils sont très actifs. Attention, hein, c'est pas des paresseux. Jésus dit pas paresseux. Jésus dit, ils construisent, ils décorent, ils enseignent, ils voyagent, ils visitent, ils prient, ils donnent financièrement. Malheureusement, la motivation n'est pas bonne. Ils se placent bien en vue dans les synagogues, ils sont présents sur les places publiques, ils sont là aux fêtes populaires. Ils font des faits et gestes qui soulignent, qui caricaturent leur thèse. Leur motivation, dit Jésus, est imprégnée d'orgueil et de suffisance. L'humilité, le don de soi ont disparu. Ce qui compte désormais pour eux, ce sont les honneurs, les apparences et les titres. L'esprit religieux institue un système de caste avec un oppresseur qui est admiré et un serviteur qui est méprisé. Comment se sont comportés les apôtres dans les Actes ? Au moment où Pierre allait entrer, Corneille vint à sa rencontre et se courba jusqu'à terre devant lui pour le saluer avec grand respect. Mais Pierre le releva en lui disant, « Lève-toi, car je ne suis qu'un homme, moi aussi. » À Lystre, suite à un miracle, la foule suppose que Barnabas et Paul sont des dieux et ils amènent des taureaux pour les sacrifier. Alors les apôtres crient, « Nous ne sommes que des hommes, tout à fait semblables à vous. » Vous avez déjà entendu des stars parler comme ça? Non. le culte de la personnalité aujourd'hui, dans les écoles maternelles, il y a les dominateurs et les dominés. Cette appréhension secrète dans le cœur de tellement d'enfants. Un journaliste a demandé à Miss Suisse, « Vous trouvez-vous belle ?» Celle-ci a répondu, « Non, je me trouve pas mal. En fait, je suis pleine de complexes. » Le culte de la personnalité porte des fruits. J'aimerais vous en dire quelques-uns. L'insécurité. Parce que quand tu te hisses au sommet, il y a quelqu'un qui guette ta place. La compétition. Quand je trouve un étudiant à Jeunesse en Mission qui fait l'école de responsable, s'il me laisse le temps, je lui dis, est-ce que règne l'esprit de compétition? Parce qu'ils ont des examens difficiles. C'est détestable. C'est détestable. Et par la grâce de Dieu, la plupart du temps, on peut y échapper. Mais j'ai entendu des écoles de responsables où c'était évident que l'esprit de compétition avait pénétré quelque part. La comparaison, la jalousie, l'humiliation, la rivalité. La star, grâce à son corps, sa tenue, sa voix, ses exploits, ses titres, se démarque. Elle vit dans un monde de paillettes. On la paie, on l'applaudit, mais l'approcher n'est jamais facile. Tout cela a de terribles conséquences. Jésus dit, malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous fermez la porte du royaume des cieux devant les hommes. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le désirent. Leur hypocrisie se manifeste par le fait qu'ils empêchent les hommes de parvenir au salut tout en prétendant les y conduire. Jésus, lui, se rend accessible. Il entraîne ses disciples dans un style de vie différent. Il est devenu comme eux, afin qu'ils puissent devenir comme lui. Nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. L'homme spirituel, c'est tout le contraire d'une star. Jésus arriva à la maison du chef. Quand il vit les musiciens prêts pour l'enterrement et la foule qui s'agitait bruyamment, il dit, « Sortez d'ici car la fillette n'est pas morte, elle dort. » Mais ils se moquèrent de lui. Les stars font très attention qu'on ne se moque jamais d'elles. Ils font très attention à chaque parole, chaque geste, chaque amélioration, n'est-ce pas? Quand on humilie la foule, on se moque de Jésus, quand on humilie la foule dehors, Jésus entra dans la chambre, il prit la fillette par la main, et elle se leva. Une résurrection. Jésus dit que quand les pharisiens font une offrande, d'abord ils sonnent la trompette. Et il y a comme ça des gens qui ont besoin de sonner la trompette pour tout. Quand ils prêchent, quand ils exhortent, quand ils prophétisent, quand ils font des... Ils sonnent la trompette. Quand un pharisien a fait une simple offrande, il lui faut une trompette. Mais quand Jésus ressuscite une enfant, il n'a besoin que d'une paisible amitié avec Dieu. Et j'ai trouvé cette situation fantastique, à vous de la garder ou pas, moi je la garde. Saint François de Sales, il a dit, le bien ne fait pas de bruit. Le bruit ne fait pas de bien. Le bien ne fait pas de bruit. Le bruit ne fait pas de bien. En résumé, l'homme religieux est plein de théories. L'homme spirituel est un praticien de la vérité. L'homme religieux écrase, l'homme spirituel soulage. L'homme religieux s'adore lui-même, il rêve de devenir une star. L'homme spirituel adore Dieu. Jésus nous appelle non pas à être des théoriciens, mais des praticiens de la parole. Pas des maîtres qui oppressent, mais des serviteurs qui soulagent. Et pas des stars. Mais des hommes et des femmes simples. Amen.